déconstruire tous ces mythes-là et d'y aller tranquillement, c'est très possible d'avoir un bon contrôle de son anxiété.
Voici qui conclut cet épisode de Très pharmacien. Au prochain épisode, votre animatrice habituelle sera de retour pour discuter des urgences hypertensives avec Marie-Ève Tourigny-Poirier du CHU de Québec, Université Laval. Alors, soyez des nôtres.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Ma belle amour, ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça. Après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis.
Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec.
This year, Democracy Now! Turns 25 years old. That's right, 25 years of bringing you the voices and stories you won't hear in the corporate media. Democracy Now! Has always refused to take government or corporate funding because nothing is more important to us than our editorial independence. Nothing is more important to us than telling you the truth. But that means we rely on you, our audience, for support. Please visit democracynow.org right now. And make your $25 contribution in honor of our 25th anniversary and help us stay on air for another 25 years and then another 25 after that. Thank you so much. And remember, wearing a mask is an act of love. Wearing two is even better. From New York, this is Democracy Now!
The police know the criminal operation of the Black Muslim movement because they have thoroughly infiltrated it.
The FBI and New York police are facing new calls to finally open their records on Malcolm X's assassination 56 years ago in the Audubon Ballroom in Harlem. This comes after the release of a deathbed confession of a former undercover New York police officer who admitted to being part of a police and FBI conspiracy targeting Malcolm X. The officer was there when Malcolm was killed. We'll speak to a cousin of the late officer, as well as Malcolm's daughter, Ilyasa Shabazz.
Any evidence that provides greater insight into the truth behind that terrible tragedy should be thoroughly investigated.
We'll also speak to civil rights attorney Ben Crump on the push to reopen the probe into Malcolm X's assassination, as well as the latest on the police killings of George Floyd, Daniel Prude, and Breonna Taylor. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman. U.S. Air Force fighter jets bombed buildings in eastern Syria Thursday, with the Pentagon claiming it successfully targeted Iranian-backed militant groups. Iranian media said the airstrikes killed 17 fighters. The Pentagon called the assault a response to recent rocket attacks on U.S. forces in northern Iraq. Those attacks came more than a year after Iraq's parliament voted to expel U.S. troops, an order that's been ignored by both the Trump and Biden administrations. Thursday's assault is the first known military action ordered by President Biden. California Congressmember Ro Khanna condemned the attack, saying, quote, "There is absolutely no justification for a president to authorize a military strike that's not in self-defense against an imminent threat without congressional authorization. We need to extricate from the Middle East, not escalate," he said.
President Biden spoke with Saudi Arabia's King Salman Thursday as the U.S. prepares to release an intelligence report on the 2018 murder of Washington Post columnist and Saudi dissident Jamal Khashoggi. A White House readout of the call says Biden reaffirmed the U.S. commitment to joint defense against, quote, Iranian-aligned groups, as well as the effort to end the war on Yemen and the importance of human rights, commending the recent release of prominent women's rights activist Lujain Al-Hathloul. The readout, however, does not mention Jamal Khashoggi or Crown Prince Mohammed bin Salman, who is widely thought to be responsible for Khashoggi's assassination. Brazil's COVID-19 death toll has passed a quarter million, the second highest toll in the world after the United States, and about 10% of all coronavirus deaths worldwide. Brazil has vaccinated just 3.6% of its population after a disastrous rollout led by far-right President Jair Bolsonaro, a COVID-19 denier who said he personally might not get vaccinated. Meanwhile, the World Health Organization warned in a new report that millions of COVID-19 survivors continue to suffer debilitating and lingering symptoms after their initial bout of the disease, with major social, health and economic consequences. Dr. Hans Kluge is the WHO's regional director for Europe.
The burden is real and it is significant. About 1 in 10 COVID-19 sufferers remain unwell after 12 weeks, and many for much longer.
The World Health Organization's report on so-called long COVID was led by Professor Martin McKee of the London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Those suffering from it describe a varying combination of overlapping symptoms, chest pain, muscle pain, fatigue, shortness of breath, and what patients describe as brain fog, among many, many others.
The United States recorded another 77,000 coronavirus cases and 2,400 COVID-19 deaths Thursday. A seven-day average of new infections has begun to tick up again after a sharp fall from January's peak. In Washington, D.C., President Biden held an event marking 50 million vaccinations under his administration.
This is not a time to relax. We must keep washing our hands, stay socially distanced, and for God's sake, wear a mask.
The House of Representatives holds a historic vote today on President Biden's coronavirus relief bill, with majority Democrats expected to approve the $1.9 trillion package. Meanwhile, the Senate's parliamentarian has advised Democrats against including a boost in the minimum wage to $15 an hour federally as part of the stimulus bill, saying such a move is prohibited by Senate rules. Progressive Democrats are calling on the Senate's presiding officer, Vice President Kamala Harris, to disregard the advice of the unelected parliamentarian in order to fulfill her campaign promise to more than double the minimum wage. Since 2009, the federal minimum wage has remained at $7.25 an hour and just $2.13 an hour for millions of workers who receive tips. An estimated 32 million people would benefit from a minimum wage increase. The acting chief of the Capitol Police Department warned a House panel Thursday pro-Trump extremists who attacked Congress on January 6 are plotting more violence. Chief Yogananda Pittman said a fortified security perimeter surrounding the Capitol should remain in place based on credible threats.
We know that members of the militia groups that were present on January 6 have stated their desires that they want to blow up the Capitol and kill as many members as possible with a direct nexus to the State of the Union.
In Nigeria, up to 300 schoolgirls are missing after gunmen raided a boarding school in the northwestern state of Zamfara. The exact number of abducted children and other details remain unclear in the attack, which comes 1 week after a raid on a school in north-central Nigeria, where one student was killed and 42 people kidnapped and are still being held hostage. The U.S. House has passed landmark legislation that amends the 1964 Civil Rights Act to include sexual orientation and gender identity as protected groups. The Equality Act extends discrimination protections for LGBTQ people at the workplace, in housing, education, among other areas. This is Democratic Congressmember Mondaire Jones of New York, who's among the first Black openly gay men to be elected to Congress, speaking on the House floor Thursday.
To grow up poor, Black, and gay is to not see yourself anywhere. It is also to feel completely unseen, as so many people around you invalidate your very existence. Today, we send a powerful message to millions of LGBTQ people around the country and indeed around the world that they are seen, that they are valued, that their lives are worthy of being protected.
The bill is expected to face an uphill battle in the Senate, where Republicans largely oppose the Equality Act. Meanwhile, Republican Senator Rand Paul's facing backlash over his transphobic attacks against Rachel Levine during her historic confirmation hearing for Assistant Health and Human Services Secretary. On Thursday, Senator Paul repeatedly compared hormone therapy and transition surgery for trans people with genital mutilation. Levine responded, quote, "Transgender medicine is a very complex and nuanced field with robust research and standards of care," unquote. If appointed, Levine would be the first out trans official to be confirmed by the Senate. This comes as far-right Republican Congressmember Marjorie Taylor Greene is being condemned for hanging a poster outside her office that reads, quote, "There are two genders, male and female. Trust the science." Green displayed the poster after Democratic Congresswoman Marie Newman of Illinois raised a transgender pride flag outside her office, which is directly across from Green's. Newman's daughter is transgender. A warning to our viewers, the next two stories contain descriptions of sexual harassment and violence. In New York, a former top aide to Governor Andrew Cuomo is accusing him of sexual harassment and intimidation. In an essay published in Medium, Lindsay Boylan says the governor went out of his way to touch her lower back, arms and legs, and accuses him of kissing her during a one-on-one meeting. Boylan first made the accusations public in a Twitter thread back in December, where she wrote, quote, "Yes, New York Governor Cuomo sexually harassed me for years. Many saw it and watched," she said. Boylan is currently running for Manhattan borough president. Meanwhile, Governor Cuomo faces a probe by the FBI and a federal prosecutor over his administration's cover-up of thousands of COVID deaths in nursing homes. And he's being accused of bullying by New York Assemblymember Ron Kim, who says Cuomo called him at his home and threatened to destroy him. In Michigan, former U.S. Olympic gymnastics coach John Gettert died by suicide Thursday, moments after he was charged with sexual assault and human trafficking. In addition to two charges of sexual assault against children, Gettert was accused of enabling former Olympic team physician and convicted serial rapist and child sexual abuser Dr. Larry Nassar. Nassar survivor Sarah Klein was just 8 years old when she began training in Gettert's gym. On Thursday, she said, quote, "He tortured and abused little girls, myself included, for more than 30 years and was able to cheat justice." And Georgia state Republicans have introduced sweeping voter suppression legislation, which would strictly limit eligibility criteria for absentee ballots, as well as require witness signatures and proof of voter ID for mail-in ballots. The measure also bars advance voting on Sundays, which Black churches use as part of their get-out-the-vote efforts, known as the Souls to the Polls. Georgia flipped blue in both the 2020 presidential race and the two Senate runoffs, largely thanks to Black voters and the work of Black organizers. This is AME Church Bishop Reginald Thomas Jackson speaking at a Fair Fight Action virtual hearing on the bill.
Let's just be honest. This bill is racist. This legislation is submitted only because Republicans lost, because Blacks exercised their right to vote and turned out in huge numbers.
And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. As above, as above.
Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Sarah Munoz, je suis étudiante au doctorat au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Monsieur Olivier Dabenne, professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris, chercheur au Centre d'études et de recherches internationales, président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes et professeur invité au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Monsieur Dabenne, bonjour.
Bonjour.
Nous discuterons aujourd'hui de vos recherches sur la démocratie en Amérique latine, en particulier de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Street Art and Democracy in Latin America », paru en 2019 aux éditions Palgrave Macmillan et qui s'interroge sur la nature politique de l'art de rue en Amérique latine. Donc tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous penché sur l'art de rue dans votre dernier ouvrage et d'où vous est venu cet objet d'analyse ?
Alors, il y a des raisons purement académiques, je vais commencer par ça, qui sont que c'est un sujet qui est peu étudié en fait. Voire même, je dirais que c'est un sujet qui n'est pas très légitime parfois dans certains milieux académiques. On pense que regarder le street art, ce n'est pas très sérieux. Alors que moi, je considère qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre en regardant les murs des grandes villes un peu partout dans le monde. On a beaucoup à apprendre sur, en fait, la démocratie, qui est le sujet de mes recherches depuis de nombreuses années. Mais enfin, il y a aussi quand même des raisons moins académiques. Et que j'ai une fascination et une passion pour le street art. Et ça fait des nombreuses années que je voyage beaucoup en Amérique latine et que je prends des photos. Et ça faisait longtemps que je pensais qu'il fallait en tirer quelque chose parce que je sentais bien qu'il y avait une dimension politique qui n'était pas très étudiée. Et donc, voilà, j'ai décidé de m'y lancer il y a 5 ou 6 ans à peu près. Et le projet, il a abouti sous la forme de cet ouvrage.
En quoi l'art de rue, justement, permet de poser un nouveau regard sur la démocratie, autant comme pratique, mais aussi comme concept académique ?
Ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est la démocratie dite délibérative. Quand on étudie la démocratie, il y a toujours plusieurs dimensions. La démocratie représentative, les élections, etc., étant la plus étudiée en général. Mais il y a aussi des dimensions plus participatives. Et puis, il y a dans la théorie ce qu'on appelle la démocratie délibérative, qui consiste essentiellement à construire de l'opinion, à construire dans l'espace public de l'opinion, des avis sur des grandes questions. Et en fait, ce que je considère dans mon travail sur le street art, c'est que l'art de rue, le street art, c'est une contribution à la démocratie délibérative parce qu'on a des jeunes qui s'expriment, qui expriment des idées et qui peuvent avoir un certain impact dans l'opinion publique. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'intervention dans l'espace public pour proposer des analyses, des idées. Enfin, certaines fresques murales nous racontent de vraies histoires. Certains graffitis mettent en accusation des politiques. Donc certains nous donnent un avis sur une question. Certains nous incitent tout simplement à réfléchir. Et au fond, pour moi, ça, c'est une attitude qui est très citoyenne. J'emploie la notion dans mon travail de citoyenneté urbaine pour faire référence à cette façon qu'ont les gens de suggérer qu'il faut réfléchir à travers une œuvre d'art.
Vous parlez de démocratisation de la démocratie. Est-ce que c'est à ça que vous faites référence ?
Alors, c'est une proposition qui vient vers la fin du travail, effectivement, où je me rends compte que ma réflexion sur la contribution du street art à la démocratie délibérative possède de multiples dimensions qui peuvent effectivement contribuer à démocratiser la démocratie parce que, comme je l'indiquais il y a un instant, par exemple, les artistes font un travail de accountability, c'est-à-dire ils rendent les politiques responsables des décisions qu'ils prennent et ça, c'est très démocratique. Ils contribuent au débat dans l'espace public, ça aussi, c'est très démocratique. Et il y a un certain impact, il y a une certaine incidence de ces débats dans l'espace public, dans les politiques publiques que l'on peut observer. Donc il y a tout un tas de contributions qui, au final, oui, me font dire qu'il y a un rôle de démocratisation de la démocratie qu'il faut vraiment explorer.
Donc en fait, l'art de rue comme pratique illégale serait devenu comme une forme légitime ou utile de contestation pour les citoyens en démocratie en Amérique latine.
Oui, c'est exactement ça. Moi, je me penche pas trop d'ailleurs sur la dimension légale ou illégale. Il y a beaucoup de débats académiques qui portent sur la définition du street art. Est-ce que ça doit être illégal, sinon c'est pas du street art, ou est-ce qu'au contraire c'est pas une variable qui est très pertinente? Moi, je pense que c'est le cas. Il faut pas chercher à savoir si c'est légal ou illégal. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder l'invasion de l'espace public par tout un tas de signes qui nous font réfléchir ou tout simplement qui nous font plaisir. Mais en tout cas, il y a un rôle important, un rôle politique que j'explore dans l'ouvrage.
Mais la légalité n'aurait pas un impact sur la portée de la contestation dans la démocratie ?
Si, bien sûr. Mais le problème, c'est que si on veut légaliser, il y a des tas d'endroits. C'est une partie de mon travail consiste d'ailleurs à comparer dans les 5 villes la réaction des autorités vis-à-vis de ces invasions d'espace public. Et on se rend compte qu'il y a des tas d'endroits où il y a une certaine tolérance, voire même il y a une légalisation sous certains contrôles de l'expression artistique dans les rues. Donc après, là, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'artiste va perdre en termes de liberté d'expression lorsqu'il sollicite une autorisation pour peindre un mur. Est-ce qu'on va lui demander de faire une jolie fresque qui va faire plaisir à tout le monde, ou est-ce qu'il va pouvoir y glisser un message un petit peu plus subversif ? Donc c'est tout le débat. Donc moi, je préfère toujours les expressions qui ne sont pas contrôlées par les autorités, parce que je considère que là, l'artiste peut faire parler toute sa créativité, et y compris nous délivrer des messages qui peuvent être très subversifs, mais ça, c'est évidemment ce qui est intéressant.
J'aimerais revenir un petit peu sur vos choix méthodologiques pour cette étude. Pourquoi avez-vous choisi 5 villes pour votre comparaison, donc en Colombie, au Brésil, au Chili, au Mexique et à Cuba ?
J'avais déjà en tête d'étudier un cas qui était celui de Bogota en Colombie, qui pour moi était un cas emblématique d'une certaine interaction entre les milieux artistiques et les autorités. C'est-à-dire il y a eu à un moment donné, sous une municipalité assez progressiste, une invitation qui a été lancée à l'adresse des artistes pour qu'ils viennent dialoguer avec les autorités politiques et élaborer ensemble un règlement de façon à éviter qu'il y ait des problèmes dans la rue. Il y avait eu d'ailleurs un jeune qui s'était fait tuer par la police. Donc il fallait faire quelque chose. Et ils ont élaboré ensemble un règlement. Donc j'ai pensé que ça, c'était très intéressant. Et en fait, les autres cas, je les compare tous à celui-là. Et en fait, je les ai choisis, disons, en fonction de divers degrés de démocratie qu'on rencontre dans ces villes ou dans ces pays. Avec un cas très proche qui est celui de Sao Paulo. Et puis comme ça, je fais des ressemblances différentes, une méthodologie assez classique en politique comparée, pour aller dans le cas extrême qui est celui de la Havane à Cuba, parce que là, on est dans un régime autoritaire où donc il n'y a pas de liberté d'expression. Et pour autant, il y a quand même des artistes qui vont dans la rue et qui s'expriment contre, en général, l'autoritarisme ou qui font des choses qui peuvent être très ironiques, l'humour, la métaphore étant un mode d'expression favori dans les régimes autoritaires parce que ça n'expose pas directement à la censure et à la répression. Donc j'ai rencontré des artistes formidables à Cuba qui faisaient parfois des interventions qui étaient un petit peu mystérieuses, comme par exemple un profil, un pochoir qui représente un profil de Fidel Castro où il y a marqué 90 plus dessous. Et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais quand on réfléchit, on se dit « bon, c'est une référence à son âge, il est très vieux, certains vont penser que c'est triste d'avoir un leader qu'on aime autant et qui est si vieux, d'autres vont se dire « c'est une honte d'avoir encore quelqu'un, c'était avant sa mort bien sûr, d'avoir encore quelqu'un à la tête de ce pays qui est si vieux ». Enfin, on ne sait pas ce que l'artiste veut dire, mais c'est justement ça qui est intéressant. Et c'est justement ça qui est une démarche démocratique, parce qu'elle incite les gens à réfléchir et à se former leur propre opinion sur le fait d'avoir un dirigeant qui a plus de 90 ans.
Et au final, qu'est-ce que ça voulait dire, finalement, les 90 plus ?
Ben, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais rencontré. Là, pour le coup, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec beaucoup d'artistes pendant mon travail. Mais à Cuba, j'ai vu quelques pochoirs que je commente dans mon livre et dont je n'ai pas réussi à trouver qui était l'auteur. Il faut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on avoue facilement, parce qu'avouer peindre sur les murs, ce n'est pas évident à Cuba. Donc, je ne sais pas, mais peu importe, je dirais, parce que je pense que ce sont des artistes qui cultivent l'ambiguïté. Et qu'inciter les gens à réfléchir, c'est un geste démocratique, même quand on est dans un régime autoritaire. Donc c'est cette dimension-là qui m'a passionné.
Est-ce que vous aviez des difficultés particulières dans votre recherche du fait d'étudier des artistes et des pratiques d'art de rue qui pourraient être potentiellement illégales selon le type de régime ?
En fait, j'ai eu aucun mal à les rencontrer. Via les réseaux sociaux, c'est assez facile d'entrer en contact. Et une fois qu'on leur explique qu'on est en train de faire un livre et qu'on va parler d'eux, évidemment, ils sont contents. Et donc, j'ai beaucoup fait d'entretiens. C'était très facile et c'était fascinant. C'était très intéressant parce qu'ils avaient beaucoup d'histoires à raconter. Et évidemment, ils avaient des choses à dire. Et parfois, ils ne se préoccupaient pas de savoir si ça allait être légal ou illégal. Parce que de toute façon, dans la plupart des cas, c'est illégal. Ils sont conscients des risques qu'ils prennent. Mais enfin, il faut quand même aussi évoquer une certaine évolution de cet art de rue, parce que c'est devenu quand même très populaire partout dans le monde. Il y a des villes où il y a des graffiti tours, comme ils disent, hein, c'est-à-dire on emmène les touristes pour voir des œuvres. Aujourd'hui, les autorités ne peuvent pas simplement dire tout ça, c'est du vandalisme et on va réprimer, on va effacer parce que c'est apprécié, ça fait partie des attraits touristiques de certaines villes. Donc il y a vraiment pas mal d'ambiguïté dans tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui des artistes qui sont mondialement connus en Amérique latine, qui voyagent beaucoup. Et ceux-là, ils n'ont même plus besoin de demander des autorisations parce que quand ils peignent, parfois la police dans la rue suppose qu'il y a une autorisation parce qu'ils sont tellement connus qu'on ne va pas les embêter. Donc il y a quand même une dimension aujourd'hui qui est une dimension business, qui est une dimension...
Qui est plus connu que d'autres et qui peut-être... dont l'art serait peut-être instrumentalisé par les régimes ?
Oui, justement, moi, dans le livre, ce que je décris, c'est différents types d'interactions entre les autorités et les artistes. Et il y a une catégorie récupération, effectivement. Il y a une catégorie, on utilise leur très grand talent pour contribuer à décorer la ville, en fait. Ils sont les décorateurs de la ville. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'ils peuvent continuer à insérer des messages à portée un peu plus sociale, une critique sociale ou politique ? C'est pas évident. Eux, souvent, prétendent que oui, et ils en veulent pour preuve certaines de leurs œuvres où on n'a pas réussi complètement à leur imposer, disons, un contenu. Et donc, j'ai vu pas mal de ces œuvres, effectivement, on peut considérer, qui ont fait l'objet de commandes publiques, en fait, carrément. Hein, c'est-à-dire, on leur a offert de l'argent, une bourse, en fait, pour peindre des choses gentilles, jolies, etc. Mais où ils ont quand même glissé quelques petits messages. Donc, ils arrivent à négocier, mais... ils ne sont pas toujours en position de force pour le faire. C'est aussi ça qui est intéressant. Une dimension qui m'intéresse dans le travail, c'est à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que les artistes forment un groupe et sont capables de défendre leurs intérêts collectivement face aux autorités politiques, ou est-ce qu'ils vont chacun dans leur coin essayer de gagner leur vie en répondant à des commandes publiques, etc. Donc j'ai vu un peu tous les types de situations. C'est sûr qu'à Bogota, il y a plusieurs artistes qui régulièrement gagnent des bourses ou honorent des commandes publiques et font des fresques gigantesques sur Garcia Marquez, par exemple, un portrait de l'écrivain Garcia Marquez à Bogota en Colombie, des choses comme ça. Et puis à l'autre bout, il y en a qui ont des démarches beaucoup plus anticapitalistes et qui ne veulent pas entendre parler d'une quelconque rémunération officielle pour leur travail et qui considèrent qu'ils sont subversifs, ils sont politiques et ça fait partie de leur ADN en quelque sorte.
Donc quand on parle de street art comme pratique illégale, subversive, c'est vraiment important de la nuancer puisque en effet, la récupération politique qui est derrière pourrait potentiellement impacter leur forme de contestation en démocratie.
Oui, c'est exactement ça. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre qu'il y a de multiples formes d'expression, mais aussi d'interaction, tant avec d'ailleurs les autorités que le public. Aujourd'hui, d'ailleurs, le risque dans certaines villes, je pense en particulier à Bogota, mais aussi à Sao Paulo, voire même à Valparaiso, au Chili, c'est qu'il y a une quasi-saturation de l'espace public et des murs, en fait. Et donc ça brouille un petit peu la capacité des artistes à délivrer un message parce que les gens font même presque plus attention. Il y a 20 ou 30 ans, c'était exceptionnel de voir tout d'un coup un pochoir bizarre sur un mur. On disait tiens, c'est quoi ça ? Ça donne à réfléchir, etc. Ou une belle fresque avec des qualités esthétiques, etc. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, peut-être beaucoup trop. Et par conséquent, ça dilue un peu la capacité qu'a le street art d'intervenir dans l'espace public parce que les gens, voilà, les gens regardent moins qu'avant.
Est-ce que vous constatez une évolution dans les pratiques démocratiques ou dans l'expression citoyenne de la démocratie en Amérique latine ?
Effectivement, moi je m'intéresse à ces formes-là, ces formes délibératives ou participatives, mais participatives, disons, du côté spontané. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les dispositifs officiels, institutionnalisés qu'on offre aux citoyens pour qu'ils participent ou qu'ils délibèrent dans des jurys citoyens, des choses, des formats de ce type qui aujourd'hui sont devenus répandus et à la mode. Moi, je préfère les initiatives spontanées. Et c'est pour ça que le street art est fascinant parce qu'il est incontrôlable. Mais clairement, aujourd'hui, on ne délibère plus comme on le faisait au 19e siècle dans un salon bourgeois décrit par Habermas. On délibère dans la rue et on délibère dans la rue avec une extension sur les réseaux sociaux qui permet d'avoir une audience bien plus large. Donc moi, je m'intéresse à toutes ces formes d'action qui permettent de discuter, de dialoguer et qui permettent aux gens de se construire une opinion. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est la construction de l'opinion publique à une échelle grande. Pendant longtemps, les chercheurs qui travaillent sur la démocratie délibérative, ils ont travaillé sur des petits formats. C'est-à-dire, typiquement, on réunit un groupe, on les fait discuter et on voit... Qui change d'opinion. On présuppose que les gens, d'ailleurs, sont disposés à changer d'opinion et on regarde comment ça se passe dans la discussion, etc. Là, aujourd'hui, l'enjeu, pour moi, c'est plus de regarder ça à une beaucoup plus grande échelle, donc dans une ville, par exemple, et de regarder comment se construit l'opinion publique, comment les gens, en dehors des périodes électorales, en dehors des dispositifs participatifs, comment dans le quotidien, tous les jours... Au niveau de la rue, un street level, comme on dit dans la littérature, au niveau de la rue, se joue cette formation de l'opinion publique et donc cette contribution à la façon qu'on a ensuite de valider des choix collectifs. C'est pas opposé au dispositif classique comme le vote ou la participation, c'est complémentaire, ça intervient en amont en quelque sorte, c'est-à-dire comment les gens se forgent une opinion publique dans le dialogue, c'est essentiel pour la démocratie, donc ça fait des années que je regarde ça en Amérique latine, qui est un laboratoire que je considère fascinant.
Justement, vous expliquez que c'est important de réduire l'échelle analytique au niveau local pour étudier la démocratie en Amérique latine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ça, notamment le rôle joué peut-être par les citoyens dans le maintien de la démocratie ?
Oui, ce qui a caractérisé mes travaux depuis 30 ans, c'est que je fais systématiquement varier les échelles d'observation. Donc en fait, moi je m'intéresse à beaucoup de choses, y compris l'échelle internationale. Mais dernièrement, je me suis beaucoup intéressé à ces échelles locales. Avant de faire ce livre sur le street art, j'avais aussi fait un livre il y a une dizaine d'années sur la culture urbaine à Sao Paulo, au Brésil, où j'avais regardé plus particulièrement le rap, la musique, mais aussi l'écriture qu'on appelle là-bas marginale, c'est-à-dire l'écriture des banlieues, disons, des auteurs qui sont issus de réalités aussi compliquées que les nôtres, voire même beaucoup plus dans les grandes villes brésiliennes. Donc là, j'avais regardé à ces échelles micro comment des gens prennent des initiatives, pas pour rejeter le système et le détruire, mais pour avoir sa place, pour faire partie de la fête. Souvent, ils disaient ça, les rappeurs brésiliens n'étaient pas forcément révolutionnaires et très, très subversifs. Ils disaient, nous, on veut juste faire partie du système, on veut juste faire partie de la fête et contribuer à la vie politique, sociale, évidemment sur la base d'une critique très forte. C'est du réalisme social, leur moyen d'expression. Mais ils veulent contribuer à une échelle micro à ce qui est plus d'égalité, plus d'exercice de la citoyenneté et ne pas considérer simplement que dans un pays comme le Brésil, étant donné les inégalités incroyables qu'il y a dans ce pays, l'exercice de la citoyenneté soit réservé à une petite élite.
Et est-ce que vous pensez que ces formes alternatives d'expression de la citoyenneté et de la démocratie soient réellement entendues par les élites ?
Alors ça, c'est une question qui est méthodologiquement très compliquée. Et je dois dire que dans mon travail actuellement, je ne l'ai pas abordé en fait vraiment directement. Il faudrait une théorie de la réception. Il faudrait des protocoles d'enquête qui soient très particuliers. C'est possible de le faire, hein, mais je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Je me suis vraiment intéressé à l'émission d'un message et pas à la réception. Ce qui est une autre chose. Mais dans un autre projet de recherche que je développe depuis 3-4 ans maintenant, avec un groupe de chercheurs qui sont dans plusieurs pays d'Amérique latine, on a regardé l'incidence, cette fois-ci, ce qu'on appelle l'incidence de la participation des citoyens sur les politiques publiques. Donc là, on l'a mesuré. Donc on sait que, évidemment, il y a une très grande diversité et c'est difficile de généraliser, mais on sait que dans certains cas, il peut y avoir de l'activisme qui a une incidence sur les politiques publiques, une incidence directe. Toute la question étant de savoir, est-ce que ces cas sont exceptionnels ? C'est très difficile de monter en généralité parce que, évidemment, dès qu'on réduit l'échelle à du micro, on s'interdit par avance de monter trop en généralité parce que c'est impossible de savoir si les situations qu'on observe, elles sont caractéristiques d'une tendance ou si au contraire elles sont exceptionnelles. Donc on a fait un livre sur cette incidence du travail de la société civile dans plusieurs pays. On est en train de continuer à explorer. On a un petit peu changé notre façon de délivrer des résultats de la recherche parce qu'on est en train de faire une web-série sur la base de témoignages de nouveaux activistes qui essayent d'avoir un impact dans les politiques publiques. Donc on continue à explorer à ces échelles micro et produire des analyses qui sont peut-être pas représentatives, mais qui néanmoins nous apportent beaucoup.
Est-ce qu'on peut de toute manière tirer des conclusions sur les pratiques de la citoyenne de démocratie sur l'Amérique latine dans son ensemble, ou quels sont les défis qui sont associés à étudier des pratiques sur un continent?
Déjà, c'est vrai que c'est difficile de monter en généralité à partir d'observations locales. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est aussi très difficile de monter en généralité à partir de caractéristiques d'un pays et de parler de toute l'Amérique latine. Là, évidemment, ça devient une gageure, mais pourquoi pas? Enfin, dans nos travaux, on constate des similitudes, on constate des régularités, des tendances à l'échelle du continent. Et c'est pour ça que, d'un point de vue analytique, ce continent, il existe en quelque sorte. C'est une ère culturelle qui est intéressante à observer, parce qu'on sait qu'il y a des choses que l'on va retrouver d'un pays à l'autre. Donc, évidemment, dès lors qu'on généralise, on prend un gros risque d'être démenti par des études précises. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer à essayer de dégager des tendances générales à l'échelle d'un continent, parce que moi, je crois que c'est tout à fait possible.
Avez-vous vu des similarités significatives entre vos 5 études de cas, donc entre 5 pays différents, sur l'impact ou l'expression de la citoyenneté à travers le street art ?
Déjà, le message qui est délivré dans des pays aussi différents que Cuba et le Chili, que le Brésil et la Colombie ou le Mexique, il est pas si... ce sont des messages qui sont assez étonnamment similaires. C'est-à-dire, il y a du réalisme social, il y a une critique sociale, qui est un grand classique en Amérique latine, étant donné que c'est le continent des inégalités depuis toujours, voire même de la violence sociale. Donc, il y a toujours un degré d'insatisfaction chez l'artiste ou chez l'intellectuel, parce qu'après tout, le réalisme magique, la littérature en Amérique latine, c'est déjà de la critique sociale. Donc, on retrouve cette insatisfaction, cette frustration, et beaucoup d'artistes et d'intellectuels qui ont des choses à dire, qui veulent que ces inégalités se réduisent d'une façon ou d'une autre, qui veulent pouvoir s'exprimer. Mais s'exprimer à Cuba, c'est difficile, mais s'exprimer au Chili quand on est jeune, c'est pas facile non plus. Et on en a eu la preuve ces derniers mois, avec ces explosions de violence que l'on constate au Chili, et qui sont dues au fait que les jeunes Chiliens ne croient plus dans la forme démocratique traditionnelle d'expression qu'est le vote. Bon, bah ça, les Cubains, ils l'ont pas de toute façon. Enfin, si, ils votent, mais c'est un vote qui est très encadré et qui sert pas à grand-chose, il n'y a pas de choix démocratique. Mais finalement, la base qui est exprimer une insatisfaction vis-à-vis d'une situation sociale et politique, elle est similaire, et elle parcourt tout le continent, et à chaque fois que j'ai fait des entretiens, j'ai entendu les mêmes analyses sur ces politiques qui ne nous entendent pas, la population qui est marginalisée, qui est exclue d'un point de vue socio-économique et politique, et cette volonté de contribuer à la critique sociale pour faire changer les choses. Donc oui, il y a des régularités et on les rencontre pratiquement dans tous les pays.
Donc au final, ces nouvelles formes d'expression citoyenne serait la meilleure alternative au vote et à toutes ces formes formelles de participation en démocratie pour l'Amérique latine ?
Moi, je ne présente pas ça comme une alternative. C'est complémentaire. Je pense que le vote est fondamental. C'est très important. Et d'ailleurs, j'ai souvent discuté de ça avec ces jeunes que je rencontrais, parce que la plupart ne votaient pas, ne voulaient pas voter, s'en fichaient complètement. Et je les ai un petit peu poussés dans leur retranchement parce que ça me paraît une erreur. Enfin, évidemment, je l'ai pas exprimé comme ça parce que j'ai préservé ma neutralité dans nos conversations. Mais néanmoins, élire un président de la République, c'est pas n'importe quoi. Et donc, il faut quand même faire attention, parce que sinon, on se retrouve avec des présidents qui sont effectivement des vrais dangers publics. Bolsonaro au Brésil, par exemple, qui est à l'origine d'une dégradation régulière et quotidienne de la démocratie. Et donc, tous les gens qui n'ont pas voté au deuxième tour d'élection présidentielle en 2018 au Brésil portent une part de responsabilité. Parce que quand on ne vote pas, on favorise toujours les extrêmes qui, eux, sont très mobilisés. Enfin, on connaît ça en sciences politiques. L'impact de l'abstention est souvent polarisant, dramatique, vers une radicalisation. Donc voilà, mais malgré tout, c'est vrai que l'image des processus électoraux en Amérique latine est vraiment très mauvaise, l'image de la politique est mauvaise, les sondages montrent que les gens n'y croient pas, que les partis politiques ne représentent pas leurs intérêts, que les hommes politiques servent des intérêts de gens puissants et riches, etc. etc. Enfin, donc, effectivement, il y a un rejet de ça. Mais moi, en tant qu'analyste, je ne le vois pas comme une alternative. Il faut... Ce qui est intéressant pour la bonne santé de la démocratie, c'est que toutes les différentes dimensions de la démocratie soient effectivement utilisées par les citoyens. Chaque forme a des limites, mais néanmoins, elles sont toutes importantes, que ce soit la dimension représentative, participative ou délibérative. Elles sont toutes absolument fondamentales.
Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de vos autres projets de recherche actuels ?
Alors, en ce moment, je travaille sur deux projets. Donc, il y a ce projet dont j'ai commencé à parler il y a un instant, qui porte sur... les nouvelles formes d'activisme et leur incidence sur les politiques publiques. Et on est en train de réaliser des entretiens avec des activistes dans plusieurs pays d'Amérique latine. Et on va les retranscrire sous forme de capsules vidéo et une web-série pour essayer de toucher un autre public que le public strictement académique qu'on touche habituellement. Et puis, j'ai un autre projet en cours qui porte sur ce que certains ont appelé ou continuent d'appeler le virage conservateur, le virage à droite de l'Amérique latine, c'est-à-dire regarder les résultats des élections depuis 3, 4, 5 ans et regarder effectivement ce qu'il en est de ces défaites en série de candidats de gauche et donc l'arrivée au pouvoir de secteurs beaucoup plus conservateurs. Et donc on essaye de comprendre pourquoi il y a des alternances dans certains pays et pas dans d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer que certaines expériences sont une réussite ou un échec, comment réagissent ces électeurs. Donc c'est une vaste enquête. On est en train de préparer un livre collectif sur cette période-là qui va probablement conclure évidemment que les choses doivent être nuancées, les conclusions doivent être nuancées. Parce qu'il y a un virage conservateur, indiscutablement, voire même il y a une certaine radicalisation de la droite dans certains pays, comme le Brésil, dont je viens de parler un instant. Mais il y a aussi une assez intéressante résilience de la gauche. Au Mexique, par exemple, la gauche l'a emporté. C'est le cas de l'Argentine aussi. Donc il y a des cas comme ça qui sont intéressants. Et au total, donc, il n'y a pas un virage très prononcé de la gauche vers la droite, comme il y a eu un virage assez prononcé vers la gauche il y a une quinzaine d'années maintenant. Mais voilà, donc ça, c'est un type de travail, je dirais, beaucoup plus classique au regard de la science politique qui porte sur des dimensions plus électorales.
Voilà qui conclut notre entretien, Monsieur Daben. Merci encore de nous avoir éclairé sur ces questions aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'ouvrage complet de Monsieur Daben qui s'intitule « Street Art and Democracy in Latin America » paru en 2019 aux éditions Palgrave Macmillan. Merci encore et bonne journée à toutes et à tous.
Réalisé par le département de sciences politiques de l'Université de Montréal, le balado « La politique en question » propose un regard unique sur les recherches menées au sein de notre département. Pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, suivez-nous sur la page Facebook du département. Au revoir!
En raison de pandémie, CKUT a décidé de rapporter indéfiniment notre campagne de financement annuelle. Mais nous apprécions toujours les dons pour soutenir nos opérations durant la fermeture. Le moment présent exige des nouvelles approches créatives, et des douzaines d'animateurs et animatrices ont relevé le défi en maîtrisant les logiciels pour vous livrer les émissions de très haute qualité. Nous sommes conscientes que CKUT 90.3 FM vous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous faisons appel à votre générosité. Si votre situation vous le permet, nous vous invitons de vous rendre sur notre site web ckut.ca et de faire un don en appuyant sur le bouton vert de donation ou d'envoyer un chèque par la poste à Radio CKUT 3647 rue Université H3A 2B3 Montréal, Québec. Merci.
todos aprendimos del COVID-19 es que algo pequeño se propaga con rapidez, como una onda expansiva. Si suficientes personas aportamos nuestro grano de arena vacunándonos, podemos generar una reacción en cadena. Una cadena de canadienses de ayuda mutua para regresar a las personas y a los lugares que amamos. Al recibir la vacuna, estamos ayudando. Obtén más información en canada.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del gobierno de Canadá.
Did you get vaccinated?
Not yet, but I will soon.
And which one are you getting?
I'm getting the dance vaccine.
The dance vaccine? Great idea.
Yeah, rehearsing with the girls is what I miss the most.
Well, it's going to be the soccer vaccine for me. I can't wait to see the gang again.
Each vaccination brings us closer to these moments. Follow the vaccination sequence planned for your area and book an appointment at quebec.ca/COVID-vaccine. A message from the gouvernement du Québec.
When you tell your girlfriend, get changed, you're dressed like a tramp. Change your password so I can see your messages. When are you going to change your mind, you stubborn idiot? Change your attitude when you talk to me. Change your friends. You better change your tone of voice. It's not up to her to change. It's up to you. Violence against women stops now. Talk about it. Do something about it. And call SOS Violence Conjugale. A message from the gouvernement du Québec.